Merci Jean. Je joins mes salutations à tous ceux qui sont parmi nous ce matin, tous vous et qui êtes là devant moi. Et je vous invite à ouvrir la Bible donc dans l'évangile de Jean au chapitre 10. On poursuit notre série dans cet évangile. Et jusqu'ici on a vu à partir du chapitre 5, l'apôtre Jean insiste particulièrement sur qu'est-ce que c'est l'œuvre de Dieu. Et elle conduit à quoi? Elle conduit au repos. Et l'œuvre de Dieu, c'est de donner la vie et d'exercer le jugement. Deux choses. L'œuvre de Dieu, c'est donner la vie d'un côté et de l'autre, exercer le jugement. Jésus et l'apôtre Jean montrent ça depuis le chapitre 5. C'est le but en réalité de tout l'évangile de Jean, que nous croyons que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, nous ayons la vie éternelle, la vie pleine, la vie en abondance. Et on va voir dans ce chapitre le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger a donné sa vie pour que nous l'ayons en abondance. Alors je vais inviter Nathalie à venir faire la lecture pour nous. On va lire donc dans Jean au chapitre 10, on peut commencer à 9:39 en fait, et on va lire jusqu'à 10:21.
Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Ainsi donc, votre péché reste. » en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ces paroles provoquèrent de nouveau une division parmi les Juifs. Beaucoup d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » Et d'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?»
Merci. Prions courtement. Seigneur, notre berger, notre bon berger, nous prions que tu nous parles et que tu nous conduises sur la voie de l'éternité vers la vie en abondance. et nous prions, Seigneur, que tu ouvres nos yeux et nos oreilles pour te voir et pour t'entendre. Amen. Il y aura quatre parties à ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. D'abord, regardez les deux bouts du passage qu'on a vu, qui encadre un peu le passage. On voit Jésus qui poursuit l'œuvre de Dieu, dont je viens de parler en introduction. Après, on va voir Jésus rassembler son troupeau. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous entendez sa voix? Et voir Jésus offrir la sécurité et la vie en abondance. Et enfin, répondre à cette question, comment est-ce qu'on peut recevoir cette vie? Vous venez d'entendre la lecture. Le passage qu'on lit aujourd'hui dans le chapitre 10 est en réalité la suite, la continuité des événements du chapitre 9. Il n'y a pas de coupure dans le temps avec le chapitre précédent, il n'y a pas de coupure avant le verset 22. Donc la fin du chapitre 10, à partir du verset 22 et suivant, elle est liée dans le sens avec ce début de chapitre, mais dans la chronologie, en fait, ces 21 premiers versets sont la suite des discussions de Jésus avec les chefs religieux, les pharisiens, à la suite de la guérison de l'aveugle de naissance. Et vous venez d'entendre comment certains reçoivent le discours de Jésus et comment d'autres le rejettent. Mais souvenez-vous, c'est ce que Jésus a dit qu'il est venu faire depuis le commencement et c'est ce qui est en train d'arriver de façon très nette dans les derniers événements. Il vient de donner la vue et la vie à un aveugle. La vie et la vue. C'est plus qu'une guérison physique. Jésus vient de sauver un homme pécheur aveugle comme nous, dans le même état spirituel que nous, incapable de se sauver lui-même. Mais Dieu l'a fait pour lui. Et il a manifesté sa gloire et son œuvre. Vous vous rappelez comment cet homme a vu et vu de plus en plus clair. Plus il regarde à Jésus, plus il entend et plus il voit celui qui est la lumière des hommes. Il comprend qui est Jésus. Le Seigneur, le Fils de l'homme. Et cela l'amène à mettre sa foi en Jésus. À la fin du chapitre 9, il se prosterne et il adore le Fils qui s'est fait homme. Mais Jésus est aussi venu exercer un jugement. La lumière a ce double effet. Elle éclaire certains et pour d'autres, elle les aveugle. En sauvant certains, la lumière révèle ceux qui sont véritablement aveugle. Elle fait une démarcation entre ceux qui voient et ceux qui ne voient pas, entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, ceux qui reçoivent la vie et ceux qui ne la reçoivent pas. Et l'ironie, c'est que ceux qui disent « nous voyons », ce sont en réalité les aveugles qui refusent de croire. Ils disent « nous savons ». Vous rappelez, précédemment, ils ont dit « allez, donne gloire à Dieu, en parlant à cet homme aveugle, ils disent, donne gloire à Dieu, nous savons que Jésus est un homme pécheur. Donc ils disent, nous savons, mais en réalité, ils savent rien. Ils pensent qu'ils comprennent, mais en réalité, ils ne comprennent rien. Et donc vous vous rappelez la progression inverse chez les pharisiens qui voient de moins en moins clair, bien qu'ils ont été les témoins de premier plan de la guérison opérée par Jésus. Bien qu'ils entendent en direct le témoignage de Jésus et le témoignage de cet aveugle guéri, ils s'obstinent. Et Jésus leur dit, vous prétendez que vous voyez, mais en réalité, vous voyez rien du tout. Regardez versets 19 à 21. Les paroles de Jésus provoquent la même division parmi ceux qui l'écoutent maintenant. Il n'y a que deux réponses possibles à Jésus. Ou bien on croit que Jésus est possédé d'un démon, un fou dangereux, ou bien on croit que Jésus est véritablement ce qu'il dit être Dieu, qui s'est fait homme, venu pour sauver. Il est bien possible que cette division existe au milieu de notre rassemblement ce matin. Il faut bien comprendre que Jésus est en train de s'adresser à des juifs, il parle à des pharisiens, des gens qui connaissent la Bible, des gens qui sont éduqués, des personnes religieuses. Et il est très probable que cette même division sera visible parmi les personnes à qui nous allons annoncer les paroles de Jésus, ici, à Cavaillon et dans la région. Jésus a dit cela au chapitre 8. Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. Alors de nouveau, on voit cette confusion, cette division. Les pharisiens disent, nous voyons. Mais en réalité, ils ne voient rien. Alors Jésus les prend au mot. Et il leur dit, ok, vous dites que vous voyez? Alors je vais vous dépeindre une image avec des mots. Dites-moi ce que vous voyez. Dites-moi ce que vous comprenez. Et Jésus se met à parler en parabole. Voyez ça au verset 6. Et il utilise l'image d'un berger qui rassemble ses brebis par opposition aux voleurs et aux brigands. Est-ce que tu vois l'image qu'il est en train de dépeindre? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que vous voyez le berger en train de rassembler son troupeau? Est-ce que vous êtes en train de voir Jésus à l'œuvre dans votre vie, vous conduisant, marchant devant vous? Est-ce que vous le voyez, ce berger légitime, celui à qui le gardien de la bergerie ouvre la porte, parce qu'il le connaît, parce que il est en droit d'être là? Ce berger a complètement le droit d'être là. Toutes les brebis qui sont dans son troupeau lui appartiennent. Elles sont sa propriété. Et il vient par le chemin direct, de façon attendue, de façon annoncée. Il se présente en pleine journée, en pleine lumière. Jésus n'utilise pas des ruses ou de la malice pour attirer des brebis faibles, pour les piéger, pour les maltraiter. Et en fait, c'est beaucoup plus simple et puissant à la fois. Est-ce que vous avez vu ça? Le bon berger appelle ses brebis qui lui appartiennent par leur nom. Et elles viennent. Le bon berger appelle ses brebis par leur nom et elles viennent. Vous avez déjà essayé peut-être au bord d'un pré de communiquer avec, je sais pas, des vaches ou des chèvres ou des moutons. Je vois Nathalie qui sourit parce qu'elle sait que j'aime bien m'exercer à ce genre de choses. J'ai pas grand succès, peut-être vous êtes meilleur que moi, mais souvent on a que des regards curieux, des vaches qui relèvent un peu la tête, qui, ou alors carrément c'est complètement l'indifférence. Hein. Vous pouvez essayer toutes sortes de paroles, de bruits. Mais c'est peut-être arrivé que vous étiez là sur le bord du champ et puis il y a le tracteur qui arrive. Juste en entendant le tracteur, les vaches commencent à se rassembler, le fermier descend et elles viennent vers lui. On n'est pas des vaches, d'accord? On n'est pas des moutons. Mais c'est l'idée derrière cette image que Jésus est en train d'employer. Est-ce que vous voyez le bon berger? Il s'adresse à chacune de ses brebis, personnellement, directement, et elles viennent. Juste en entendant sa voix. Le berger rassemble son troupeau par sa parole. Il parle et les brebis qui font partie de son troupeau se mettent en route, se mettent en mouvement. Elles l'écoutent et même elles le suivent et elles marchent près de lui. Elles restent avec lui. En fait, on voit la même progression que pour l'ancien aveugle du chapitre 9. Il entend Jésus. Il se rapproche de Jésus contre vent et marée et il finit à ses pieds. Il reste avec Jésus, prosterné, en train d'adorer celui qui l'a sauvé. Cet aveugle guéri, c'est un exemple concret du premier siècle de la vérité que Jésus explique dans cette parabole. En fait, c'est ce qui avait été déjà promis 600 ans avant Jésus-Christ. Est-ce que vous réalisez ça? Le prophète Ézéchiel a reçu cela. Ézéchiel 34, verset 11. En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis. Je veillerai sur elles. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées, je veillerai sur mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées un jour de ténèbres. Et d'obscurité. Est-ce que vous réalisez ce matin que vous, que nous pouvons entendre la parole de Dieu, de l'Éternel, le Seigneur, qui était au commencement, qui est Dieu? N'est-ce pas impressionnant de savoir que Dieu, qui est plus grand que tout l'univers, que tout ce qu'on peut concevoir, il parle à chacun, à chacune. Et ma question, est-ce que vous ne voulez pas l'entendre vous parler ce matin? Est-ce que vous ne voulez pas l'entendre vous parler chaque jour de cette semaine? Est-ce que vous êtes pressé d'être mercredi ou jeudi ou dimanche prochain pour encore et encore l'entendre, ce bon berger qui appelle et qui vous conduit? Écoutez le bon berger vous parler. Et si vous comprenez ce que Jésus dit ici, cela doit produire une attitude de confiance envers lui. Est-ce que votre confiance en Jésus est en train de grandir depuis que vous le connaissez, que vous entendez sa voix? Je ne sais pas, depuis combien de temps est-ce que vous le fréquentez, le bon berger? Êtes-vous plus confiant en lui que dans le passé? Ou bien sa voix résonne, mais ne vous touche toujours pas? Et si vous grandissez dans votre confiance en Jésus, alors vous allez découvrir un attachement plus fort, toujours, à Jésus. C'est cela que fait le bon berger. Il parle, et les brebis viennent vers lui. Il leur court pas après, mais elles entendent sa voix, et comme elles ont confiance, elles s'approchent. Et il prend soin d'elles, et il les rassemble. Donc, écoutez, Jésus nous donne toujours plus confiance pour venir vers lui, pour lui obéir, pour suivre ses directions pour notre vie, plutôt que la voix des brigands, la voix des voleurs. Ou plutôt que ce que nos tripes nous dictent. Nous ne sommes plus en train de nous égarer à droite, à gauche, comme après ce jour de ténèbres et d'obscurité, parce que le bon berger parle et rassemble ses brebis. Il rassemble un troupeau. Un troupeau. Un berger. Il n'y a pas un berger, une brebis, mais un berger, un troupeau. Et s'approcher du berger, c'est aussi obligatoirement, c'est s'approcher du troupeau. Aimer le berger, c'est l'aimer avec les autres et se réjouir de faire partie du troupeau. Christ est le chef de cette église locale et il a voulu rassembler un troupeau dans ce lieu. Et mon invitation, l'invitation de Jésus, c'est ne fuyons pas loin de lui. Ne gardons pas nos distances vis-à-vis des autres brebis si nous lui appartenons. Laissons-nous rassembler par lui, par sa parole. Et quand il a fini de parler, de dépeindre cette image, on est à la fin du verset 6, il ne rencontre que le regard vide de ses auditeurs, une grande partie d'entre eux en tout cas. Ils n'ont rien compris. Pourtant, il les a pas pris par surprise, vous notez bien. Ils auraient dû être sensibles à cette image du bon berger, puisqu'elle était déjà dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, dans les prophètes. Et juste pour reprendre encore un passage d'Ézéchiel 34, au verset 1. Voilà ce que Dieu dit. La parole de l'Éternel a été adressée à Ézéchiel. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces bergers. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que de eux-mêmes. N'est-ce pas des brebis que les bergers devraient prendre soin? Les pharisiens, les chefs religieux ne voient pas parce qu'ils sont des mauvais bergers d'Israël. Ils agissent comme des voleurs et des brigands, cherchant à s'accaparer ce qui ne leur appartient pas. Ils ne parlent pas selon le cœur de Dieu. Ils ne redisent pas les paroles du bon berger. Ils usurpent leur position dans un sens. Mais écoutez encore le bon berger parler. Verset 7 à 10, il affirme « Je suis la porte des brebis ». Alors, il est berger ou il est la bergerie ou il est la porte, on comprend rien. C'est une manière de rester bloqué avec juste l'image. Mais de nouveau, si Christ t'éclaire, tu verras le sens de tout ça. Il y a une porte, en plus d'être un berger. Qui a besoin d'une porte? Chez moi, j'ai plein de portes. Est-ce que vous avez besoin d'une porte? Est-ce que vous êtes en train de regarder autour de vous, dans votre situation, comme vous êtes ce matin? Peut-être pour certains, la santé qui tient à un fil. Peut-être pour d'autres, une situation personnelle qui semble sans issue. Pour d'autres, une lutte avec le péché ou avec un péché particulier qui devient difficile, qui semble pas sur le point d'être gagné. Peut-être c'est une inquiétude face à la vie familiale ou au boulot ou les enfants. Vous savez, c'est ridicule d'entendre quelqu'un dire « je suis une porte », sauf quand on a besoin d'une issue. Une issue de secours dans un désert, dans la tourmente, un moyen d'échapper. Si tu es prisonnier du péché, tu es content d'entendre quelqu'un qui dit « je suis la porte ». Si tu es poursuivi par la mort, tu es content d'entendre « je suis la porte ». Et Jésus dit « je suis la porte ». Entre. Entrez et trouvez le refuge et le secours dont vous avez besoin. Écoutez le bon berger vous parler. Voyez l'image qu'il dépeint. Il est la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, dit Jésus, il sera sauvé. Oui, on a besoin d'une porte. Une porte de salut. Jésus dit au chapitre 14, « Je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La même idée, il est la porte, il est l'accès au Père céleste qui prend soin de nous, qui est capable de nous délivrer. Et vous voyez, c'est même plus beau que ça encore. Vous êtes en train de vous réjouir, mais attendez, il y a plus que ça. C'est plus que la sécurité que Jésus promet. Il ne nous dit pas, venez entrer dans la porte et on va s'enfermer tous dans une borie. Vous connaissez les bories? Avec les pierres, dans la pénombre, dans le froid, avec les loups qui rôdent autour, on serait tous tremblants. Lors des conférences d'Évangile 21, qui se déroulent en Suisse, près de Genève, une des options, c'est de dormir dans des abris anti-atomiques. Vous savez, la Suisse a construit ça un peu partout sur son territoire. Franchement, c'est pas le top, hein. Des longs couloirs, des dortoirs exigus sur quatre rangées en hauteur, des néons blafards. Alors on peut être en sécurité, mais si dehors c'est la guerre atomique, ça nous arrange pas trop. Mais Jésus, il promet plus que ça. Jésus promet plus que la sécurité. Il promet de nous conduire vers des verts pâturages, d'expérimenter la vie. Passer par lui, c'est entrer dans un nouveau royaume. C'est trouver de quoi se nourrir. Et oh, quelle nourriture Jésus a en réserve pour ceux qui le suivent, pour ceux qui entrent. Cette vie, c'est pas une vie de course pour faire les courses. Rappelez-vous, c'est bientôt la période de Noël. Est-ce que vous serez sages? Est-ce que nous serons sages? La vie, c'est pas remplir sa vie de choses. La vie, c'est pas remplir sa vie de la consonne dernier cri, des livres, des DVD, d'un agenda rempli de voyages, de bricolage, je ne sais pas quoi. La vie en abondance que Jésus promet, c'est la paix qui surpasse toute intelligence, même face à l'inquiétude. La vie en abondance, c'est l'amour de Dieu dont les dimensions sont trop vastes pour être saisies, même au bout de 1000 fois. Il faut toujours y revenir et considérer la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur. Même quand on n'a pas été à la hauteur de cet amour. La vie en abondance, c'est la joie qui vient du Seigneur, qui donne la force d'obéir au Seigneur. La joie du Seigneur sera votre force et qui devient une joie plus forte encore dans notre relation avec le Seigneur. Et comme cette joie est encore plus forte, du coup, on est vivifié et ça nous porte toujours plus à vivre pour l'honneur de son nom. La vie en abondance, c'est être actif pour et dans la sécurité du royaume de Dieu. La vie en abondance, c'est la présence puissante et rassurante du berger, même dans la vallée de de l'ombre et de la mort. Le bon berger qui nous garde jusqu'à ce que l'on ait entièrement traversé ces moments terribles pour nous offrir le plus grand des banquets. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite est ton appui. Voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'aimerais tellement avoir des mots pour décrire cette vie en abondance que promet Jésus. La parole est là, elle nous donne tout ce dont on a besoin. J'aimerais tellement réveiller chez vous, s'ils sont éteints, tous ces moments, tous ces souvenirs où vous avez goûté cette vie en abondance en Jésus, particulièrement intensément. Est-ce que tu veux pas venir à cette porte? Moi, dit Jésus, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ne suivez pas les mercenaires, parce qu'il y en a. Ne suivez pas les employés qui s'occupent du troupeau sans en prendre soin, par intérêt personnel. Ils sont dangereux. Vous vous rappelez peut-être du capitaine du Costa Concordia, c'est un bateau de croisière, et par sa négligence et par son orgueil, il avait était trop près des côtes italiennes, il avait fini par en fait échouer son bateau contre des rochers. Et alors que c'était la panique, il a ajouté à son effet non seulement de ne pas bien organiser l'évacuation, mais il était lui-même parmi les premiers dans les canots de sauvetage, le premier à terre, le premier à fuir le danger. C'est ça que Jésus nous avertit, il y en a qui ont cette attitude-là. Certains sont venus avant Jésus. Certains, nous avertit Jésus lui-même, viendront après lui. Ils tenteront de se faire passer pour lui. On dira, Christ est ici ou il est là. Ne courez pas là-bas. Christ est près de toi. Si tu as mis ta confiance en lui, si tu écoutes ses paroles, le bon berger t'a attiré à lui, reste près de lui. Des tas de personnes religieuses et non religieuses crient votre nom juste aujourd'hui encore, vous allez les entendre. Ils réclament votre allégeance. Ça me fait cet effet-là quand je vais au supermarché. Des affaires dans les rayons des magasins, de Mistral 7 ou de je sais pas où. Ils réclament votre attention. Réclame, c'est l'ancien mot pour publicité. Il y a une réclame à la télé. Ils réclament votre âme. Votre esprit, votre temps, votre énergie. Et des personnes aussi font ça. Alors connaître le bon berger, c'est avoir du discernement. C'est être une brebis capable de distinguer le bon berger des loups. Devenir un disciple de Christ, en fait, réellement, c'est sortir du troupeau de Panurge. Vous connaissez cette histoire de Rabelais? Un certain Panurge qui était en voyage sur un bateau et qui accoste un autre bateau, rencontre un certain Dindonneau, qui est propriétaire d'un grand troupeau. Peut-être vous avez vu ça à l'école. Ils s'entendent pas trop, ils se disputent, et pour se venger du propriétaire du troupeau de moutons, Panurge réussit finalement à acheter un de ses moutons. Et l'instant d'après, qu'est-ce qu'il fait? Il jette ce mouton par-dessus bord. Et attiré et affolé par les cris du mouton, tous les autres bêtes du troupeau sautent par-dessus bord et suivent le mouton dans sa mort. Ça, c'est ce que font les moutons de Panurge. Ils entendent des fausses voix, ils se laissent prendre par des brigands, des voleurs. Ils sont jetés dans la mort. Et tout un tas les suivent. Ça, c'est ce que font les moutons de Panurge, mais pas les disciples de Christ. Parce qu'ils écoutent la voix de leur maître, plus que la leur, plus que celle de la société. Ils ont appris à reconnaître la bonté et la sagesse de leur maître. Ils ne courent plus après ce que tout le monde court. Ils ne suivent plus les systèmes religieux. Peu importe si une majorité de moutons s'agite autour d'eux, ils restent fixés sur la direction que leur donne le bon berger. Ils entrent, ils sortent en sécurité, ils goûtent à ce qu'il y a de meilleur. En réalité, eux, ils sont libres, les disciples de Christ. Et c'est pas une question d'être nombreux, d'être une majorité. C'est une question que le bon berger est la vérité. Il est vrai, il est juste, il est bon. Jésus promet la sécurité et la vie en abondance pour toujours. Mais comment? Comment va-t-il tenir cette promesse? On est dans les derniers versets 11 à 18. Comment recevoir cette vie? Lisez avec moi versets 14 et 15. La réponse est là. Moi, dit Jésus, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Voilà comment avoir cette vie. Jésus donne sa vie pour ses brebis. Il le fait volontairement, en plein accord avec le Père. Est-ce que vous êtes touché par l'intensité de la connaissance et de l'amour de bon berger pour ses brebis? C'est la même intensité et la même puissance d'amour qu'il y existe entre Jésus et le Père. Entre le Fils éternel et le Père éternel. C'est l'amour qui est à l'origine de cet acte de Christ à la portée immense. Il donne sa vie pour ses brebis. Il le fait pour ses brebis, vous voyez, il le fait pas pour lui-même. Il le fait pour d'autres, parce qu'il les aime. Là, on pourrait dire, mais attends, une minute. S'il donne sa vie, c'est-à-dire s'il meurt, c'est ça qu'il est en train d'expliquer, d'accord? Donner sa vie, est-ce qu'il ne met pas tout le troupeau en danger? Réfléchissez, si un brigand arrivait, en voulait à Nathalie, je voudrais m'interposer. Mais tout ce que je pourrais faire, c'est faire gagner un peu de temps. Cours, fuis. S'il me tue, après la prochaine victime, ce sera voilà, Nathalie, les suivants. C'est beau, un berger qui s'expose devant le loup, devant l'ours, le lion. Prêt à défendre son troupeau, mais s'il meurt, quel est l'avenir du troupeau après ça? Alors écoutez la bonne nouvelle. Verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Voyez, voilà pourquoi nous pouvons être en sécurité. Voilà pourquoi nous pouvons réellement croire les promesses de vie, d'abondance de Jésus dans ce passage. Parce qu'il est mort pour ses brebis. Il a donné sa vie volontairement pour des pécheurs. Des brebis égarées, incapables de se sauver face au lion, à l'ours, au loup. Il a payé de sa vie, mais il est ressuscité, il a repris sa vie, il est vivant. Voilà pourquoi l'église de Cavaillon, aujourd'hui, est en sécurité. Voilà pourquoi l'église de Cavaillon, vous, nous, moi, nous pouvons expérimenter tout ce que Jésus nous dit ici dans ce passage, parce qu'il est vivant. Le bon berger parle, il continue de rassembler son troupeau, il continue de faire du bien à son peuple, à ses disciples. Et tout cela doit nous amener à l'adoration de Jésus, n'est-ce pas? Pour toute une vie d'éternité, à louer, à vivre la communion avec le bon berger. Et cette bonne nouvelle est pour nous. Réjouissons-nous dans cette bonne nouvelle. Vivons dans cette bonne nouvelle et partageons cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle porte en elle l'appel à la mission. Voyez ça, verset 16. Pour que tout le troupeau vienne et adore le bon berger et qu'aucune brebis ne manque à l'appel. Parce que oui, il y a d'autres brebis qui appartiennent déjà à Jésus et qui n'attendent qu'une chose, d'entendre sa voix, son appel. Et nous sommes aujourd'hui les envoyés de Jésus dans le monde pour porter sa voix jusqu'aux extrémités de la terre. Les autres bergeries dont Jésus parle sont les gens des autres nations, des autres langues, de toutes conditions, de tout âge. Et certains ont fait des milliers de kilomètres pour arriver ici à Carillon. Et d'autres sont nés ici, mais ils n'ont jamais entendu la voix du bon berger, bien qu'ils voient des troupeaux passer non loin de leur maison. Il faut. Vous avez vu ça? C'est un impératif pour Jésus. Et si nous sommes ses disciples, c'est aussi un impératif pour nous. Il faut, dit Jésus, que je les amène. Elles écouteront ma voix. Et il y aura. Donc il faut et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Nous pouvons aller avec confiance, assurance, parler à tous ceux qui sont autour de nous. Nous ne connaissons pas qui sont les brebis. Nous parlons à tout le monde. Hommes, femmes. On a 5 minutes, on a 1 heure, on parle de cette bonne nouvelle, du bon berger, de la porte, de la vie en abondance. Nous ne connaissons pas les brebis, mais celles qui appartiennent au Seigneur entendront sa voix et elles viendront. Et il y aura un troupeau sous un seul berger. C'est l'accomplissement des promesses de Dieu, une fois encore transmise par Ézéchiel. 600 ans avant Jésus, Ézéchiel a parlé. Et 400 ans après la mort de David. Et voici ce qu'il dit. Ézéchiel 34, verset 13. C'est Dieu qui parle. Je les ferai sortir de divers peuples. Je les rassemblerai des divers pays et je les ramènerai sur leur territoire. Je les conduirai sur la montagne d'Israël, le long des cours d'eau et dans tous les endroits habités du pays. Je les conduirai dans un bon pâturage et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable et elles brouteront dans de riches pâturages sur les montagnes d'Israël. Verset 23, je vais mettre à leur tête un seul berger et il prendra soin d'elles, mon serviteur David. David, ça fait 400 ans qu'il est mort, donc Dieu est en train d'annoncer quelqu'un qui sera comme David, le fils de David. C'est lui qui prendra soin d'elle et qui sera un berger pour elle. Verset 24, moi l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera un prince au milieu d'elle. C'est moi l'Éternel qui ai parlé. Est-ce que tu as vu le bon berger? Est-ce que tu as entendu la voix du bon berger? Ne veux-tu pas entrer par la porte et goûter la vie en abondance? Le bon berger a donné sa vie pour que nous l'ayons en abondance.